en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui la philosophe Chantal Delsol, qui se définit elle-même comme une libérale néo-conservatrice. Elle a publié des livres aussi importants que, entre autres, en 1992, L'État subsidiaire, publié au PUF, en 1998 avec Michel Maslowski, Histoire des idées de l'Europe centrale, toujours au PUF, en 2000, Éloge de la singularité, à la table ronde, en 2002, La République, une question française, à nouveau au PUF, et en 2008, Qu'est-ce que l'homme, aux éditions du Cerf. Chantal Delsol a été élue le 18 juin 2007, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Chantal Delsol, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel. 7 questions récurrentes posées à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Tout de suite, la première question. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été Chantal Delsol jusqu'à présent, à vos yeux, le moment essentiel?
Vous savez, d'abord, ma carrière est courte, hein, parce que j'ai commencé à 40 ans. Donc...
Oui, mais vous avez rattrapé le temps perdu.
C'est très ramassé. Le moment essentiel, moi j'aime beaucoup les commencements. Ça a été le moment où nous avons à plusieurs créé un département qui au départ était d'études européennes et qui en fait était un département sciences politiques et philosophie à l'université qui était à l'époque Marne-la-Vallée, qui maintenant est Paris-Est. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas ce qu'en penseraient les collègues qui étaient avec moi, mais pour moi, ça a été quelques années de commencement, de création, avec énormément d'échanges avec l'étranger. Ça a été un moment très, très intéressant.
Mais en quoi était-ce différent de, disons, l'ambiance qu'il y avait dans l'université aux alentours et dans la région parisienne? Qu'est-ce que vous avez cherché à faire de neuf? Dans la façon de faire.
Non, je ne pourrais pas vous faire des comparaisons parce que je ne connais pas assez de départements universitaires. Comme je vous ai dit, mon expérience finalement n'est pas immense. Mais on a essayé vraiment de faire un très grand nombre de choses originales avec beaucoup de séjours à l'étranger pour les étudiants. Quelque chose de très international. Et puis vraiment de faire les choses comme il faut. On était tout le temps en train de retravailler nos programmes. Enfin, ça a été un moment qui était assez exaltant.
On m'a dit personnellement que ça ressemblait à une université américaine.
Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs si ça serait trop à dire.
Bon, en tous les cas, voilà. Alors, j'ai remarqué une chose. Est-ce que vous êtes consciente du fait que vous avez été élue à l'Académie des sciences morales et politiques en 2007, mais savez-vous que vous êtes probablement la personne membre de l'Institut aujourd'hui qui a été le plus souvent primée par une académie? J'ai fait le compte 4 fois. Vous avez été primé par l'Académie des sciences morales et politiques pour l'État subsidiaire et l'histoire des idées politiques de l'Europe centrale. Vous avez eu le prix prestigieux de l'Académie française pour l'éloge de la singularité. Et vous avez eu le prix Liard, donc, qui est aussi un prix de l'Académie française, pour la République, une question française. Alors, vous vous sentiez pisté comme ça?
Non, mais je pensais que... Je pensais que ça arrivait à beaucoup de gens. D'abord, il y a l'un de ces 4 prix m'a échappé, je vous avoue.
Le dernier, c'est ça?
Non, l'avant-dernier, je ne sais pas. Bref, je n'avais pas compté. Et je pensais que c'était fréquent. Enfin,
bon, bah, c'est votre modestie qui vous honore une fois de plus.
Non, mais je n'ai pas regardé. Enfin. Bon.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Chantal Delsol, qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire sur ce que vous faites actuellement?
Alors, vous savez, nous avons un métier, beaucoup de chance, parce que c'est un métier qui est très diversifié, très pluriel. Donc, il y a plusieurs choses. Et puis, en même temps, on peut choisir. On n'a pas véritablement de travail imposé, sauf pour quelques cours. Qu'est-ce qui me paraît essentiel? D'abord, le travail avec les étudiants. Tout ce qui est échange et travail avec les étudiants, ça, c'est formidable. Les thésards, mais les autres aussi, ceux qui sont en master. Enfin, c'est très, très intéressant et ça prend quand même une bonne partie du temps. Et puis, j'aime beaucoup ce que je fais au CERF, où je m'occupe de la collection La Nuit Surveillée. Ça, c'est très intéressant, avec des gens agréables. Et puis, j'aime beaucoup aussi ce que je fais au Bernardin, où je m'occupe d'organiser des recherches aussi, organiser des conférences et des séminaires.
Autrement dit, vous aimez bien mettre les autres en valeur. Vous êtes un peu un sourcier, auprès des autres.
J'aime beaucoup les groupes où on travaille ensemble. J'aime bien quand on est plusieurs et qu'on fait les choses ensemble. Je trouve ça très agréable.
Alors tout à l'heure, je vous ai vu sourire quand je vous ai présenté comme une libérale néo-conservatrice. Vous, vous ne faites pas de complexe par rapport à l'intelligentsia de gauche?
Non, pas du tout. J'ai l'habitude d'être au milieu d'eux, un peu comme dans un bain. J'ai toujours été au milieu d'eux. Depuis que j'ai commencé à penser, quand j'avais 17 ans, je me faisais traiter de fasciste parce que j'étais antistalinienne. C'était l'époque où, vous savez, quand on parlait du goulag, on était fasciste tout de suite. Donc voilà, les choses ont bien changé. Hein.
Oui, c'était jusqu'aux années 70.
Voilà, maintenant on a quand même plus de liberté de penser, mais enfin, bon, je suis dans ce bain-là et... Ça ne me gêne pas, il y a quelques règles à respecter quand même. Hein.
Mais est-ce que vous pouvez quand même dire que vous avez subi d'une façon ou d'une autre, ou en tous les cas connu, un terrorisme intellectuel de la gauche ou non ?
Mais je subis encore.
Vous subissez encore ?
Ah mais bien sûr,
exemple.
Nous subissons encore.
Exemple.
Nous ne pouvons pas nous permettre tout ce que les autres peuvent se permettre.
Par exemple ?
Ah, c'est compliqué à dire parce que je ne vais pas mettre en cause des
Non, non, les personnes,
des,
on ne parle pas.
Non, non,
non.
Mais
on ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que
non, non, c'est précisément.
C'est le type stalinien.
Non,
ça.
Non, précisément. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens qui n'ont pas les mêmes idées que les autres, les mêmes convictions que les autres, et bon, qui font partie d'une frange, effectivement, on peut dire libérale, néoconservatrice, on pourrait trouver d'autres mots. Mais,
moi, quand même. Non.
Voilà, il faut que leur conduite soit bien plus impeccable que celle des autres. Disons que tout leur est pris à charge. Je dirais même, vous savez, à l'université, tout est plein d'irrégularités. L'irrégularité, c'est un tout petit mot pour ce qui se passe. Je dirais même que la plupart des papiers que nous faisons, beaucoup de papiers sont faux. Voilà. Écoutez, il y a des gens qui l'écrivent, donc on peut bien le dire. Vous voulez payer un enseignant, vous ne pouvez pas le payer parce que les conditions sont tellement difficiles que vous allez payer sa femme à sa place.
Ah oui,
vous vous rendez compte.
Oui. On est un peu dans le même système que les mairies avec les partis politiques, quoi, dans le temps. C'est un peu ça, quoi.
Là, si vous voulez, ça n'enrichit personne. Hein. Ça n'a rien à voir avec la malhonnêteté. Mais c'est simplement que le système est tellement raide que si à l'intérieur... Vous ne vous ébattez pas, vous avez des soupapes. Et donc, ce sont des choses, si vous voulez, qui, en principe, devraient être complètement interdites si ça ne se passait pas dans un système d'État. Mais tout le monde le fait. Mais des gens comme moi ne pourraient pas se permettre
vous
de le faire.
Pas
parce
le faire.
Que moi, je serais immédiatement ramassé. Alors, c'est moi qui prendrais tout. Vous voyez ? Ce genre de choses, vous me demandez un exemple, je vous donne.
C'est très grave, parce que ça met en cause le fonctionnement d'une
quelque
chose.
Mais, écoutez, les systèmes d'État, c'est ça. J'ai lu l'autre jour, je crois que c'est Jean-Claude Casanova... qui disait la même chose. Je fais des cours, je donne des cours, on me rembourse en trajet, je fais un trajet, on me rembourse en cours. Enfin, vous voyez, tout est truqué. Eh bien, non, pour nous, on ne peut pas se permettre ça.
On va laisser les soupapes à leur niveau et reprendre un peu de hauteur. Vous dites souvent que votre philosophie est très marquée par l'influence d'Aristote, mais quelle est pour vous l'actualité essentielle d'Aristote aujourd'hui ?
Parce que... C'est pas d'actualité parce que c'est universel,
éternel. Pour quelqu'un qui ne l'a jamais lu, quelques mots selon le principe de l'essentiel, on pourrait dire.
J'ai été marquée par Aristote parce que j'ai vécu surtout à une époque où on était plongé dans l'irréalisme, dans les idéologies. Aristote est un philosophe empirique, ou si on préfère, parce que le mot est trop chargé pour nous, c'est quelqu'un qui part de l'existence, de la réalité, de la finitude humaine, et qui tisse son monde autour de ça. Comme nous vivions dans les années 70 dans un monde complètement idéologique, disons que le secours, c'était une philosophie comme ça.
Oui, mais c'est assez souvent le cas dans la philosophie grecque, quand même, non ? Épicure, tout ça, c'est un peu... C'est la même disposition.
Non, mais pas de la même façon.
Pas de la
et
même
puis,
façon.
Chez Platon, c'est pas le cas.
Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel, élargissons, si vous le voulez bien, encore les perspectives, à votre regard sur l'évolution du monde en général et l'évolution de notre société. Qu'est-ce qui, sur ce plan, vous paraît essentiel à dire ?
De l'évolution de la société. C'est très large comme question.
Bien sûr, il y a une part de jeu.
Oui.
Qu'est-ce que... Si vous voulez, je peux vous aider parce que...
disons
non pas
qu'on peut lancer
à votre place, mais comme j'ai lu quand même beaucoup de choses que vous avez écrites...
Vous voulez parler de l'évolution des sociétés occidentales ?
Oui, ce que vous voulez mettre en valeur, ce qui vous frappe, quoi,
moi,
que vous aimeriez faire passer.
Moi, ce qui me frappe le plus, c'est la désocialisation. Le fait qu'énormément de gens ne parviennent plus à demeurer ensemble. Et donc, ça peut s'exprimer aussi bien par l'effacement d'une partie de la décence commune, notamment ce qu'on voit dans les lycées, par exemple, et pas uniquement dans les lycées à problème. Et puis aussi, par des phénomènes comme le fait qu'il y a tellement de gens qui vivent seuls, que les gens ont énormément de mal à rester ensemble. Il y a beaucoup de gens qui sont brouillés à l'intérieur même des familles. La désocialisation est énorme dans des pays comme les nôtres. Et j'ai lu récemment un texte sur Londres. C'est terrifiant, quoi.
Vous avez fait un lien avec la politique à ce sujet-là. D'ailleurs, nous parlions de République il y a un instant. Mais vous disiez que vous avez écrit quelque part que le principe républicain était perverti par l'évolution de l'idée démocratique et la place donnée à l'égalité à travers le fait que l'égalité a pris une telle place aujourd'hui qu'on n'a plus besoin de la relation à l'autre.
On ne se rend pas compte à quel point on en a besoin, ou bien alors on pourrait dire autrement, on tient tellement à notre liberté totale que on est prêt à tout casser pour la conserver, et donc à casser aussi les relations avec les autres. Alors, on provoque d'autres malheurs, mais on ne veut tellement pas revenir aux malheurs précédents, qui étaient les malheurs dus à la communauté, et il y en avait aussi, bien sûr, qu'on préfère les prochains plutôt que les anciens malheurs.
Oui, donc là, on prend un risque encore plus grand.
Alors, bon, après, quel est le malheur le pire ? On peut en discuter, naturellement. Mais je trouve que c'est quand même terrible de voir cette solitude.
Alors, en observant un peu ce que vous avez écrit donc, ces derniers mois, hein, je ne suis pas remonté plus loin pour cela, j'ai vu que vous aviez récemment pris position de façon aussi sévère que brillante, d'ailleurs, contre la généralisation de ce que vous appelez la hantise du trop. Et vous aviez une phrase étonnante, il faut que je retrouve cette phrase parce qu'elle est... Voilà, c'est ça. L'obsession du trop traduit autre chose que la réalité du trop. Et là-dessus, vous faites un papier très brillant, c'était dans le Figaro, le 12 janvier de cette année.
Quel était le titre ? Excusez-moi.
Sur le thème du malthusianisme, du triomphe du malthusianisme.
Ah, oui.
Et vous pensez qu'aujourd'hui, c'est un problème fondamental dans notre société ? Est-ce que c'est la remise en cause de plusieurs siècles, je ne dis pas de millénarisme, mais ne serait-ce que la remise en cause de la philosophie des Lumières, quoi. Croire toujours que demain sera meilleur qu'hier, c'est fini, ça.
Ah oui, je pense que là, il y a un essoufflement énorme de l'idée de progrès. Et je pense qu'à la limite, plus grand monde n'y croit. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Je ne sais pas, je pense que je ne suis pas la seule, d'ailleurs. Et ça va apporter des conséquences qui ne sont pas encore claires. Mais c'est un changement profond, parce qu'avant l'idée de progrès, il y a eu l'attente du salut. Alors, on a remplacé le salut spirituel par la santé temporelle, on peut dire. Le salut par la santé. Et maintenant, on ne croit même plus au progrès temporel, ou plus vraiment. Alors, il y a un mélange en même temps, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui y croient, mais il y a encore certains points sur lesquels on y croit. Mais oui, je pense qu'il y a un effacement de cette idée. Et ça va être quelque chose de très important dans les mentalités.
Avec tout ce qu'on voit maintenant, alors les dérives, principes de précaution, risque zéro, tout ça.
Oui, alors...
L'écologisme qui devient une religion.
Oui, alors ça participe du mouvement global, mais je pense que ce qui concerne l'idée de progrès, j'ai fait une conférence au Bernardin à ce sujet, et d'ailleurs aussi une conférence aux États-Unis la semaine dernière là, sur ce sujet. La conséquence essentielle, c'est qu'on est en train de reprendre une idée de l'éternel retour du temps. On n'a plus de temps fléché, puisque le temps ne va plus nulle part. Et donc, on est en train de remplacer l'idée de salut par l'idée de destin, si vous voulez.
Oui, là, la liberté, on la perd au passage.
Voilà, exactement, je pense. Et je pense qu'il y a tout un pan de la démocratie qui s'effondre avec. Donc, d'où le développement du consensus à la place de la démocratie représentative. Enfin, tout ça, ça va ensemble. Et ce que vous évoquiez à l'instant, forme de panthéisme, au fond, ça va avec. Il n'y a plus de liberté, enfin...
Alors un autre aspect, donc une autre dénonciation de votre part, une dénonciation récente, qui est peut-être liée à la précédente d'ailleurs, les dérapages des médias, et vous dénonciez de façon assez violente, hein, le paradoxe existant dans notre société entre la situation du citoyen ordinaire, et je vous cite, qui doit se plier à des contraintes plus drastiques qu'un autre moment de son histoire, et en face des médias qui jouissent, eux, d'une liberté totale. Et vous dites, c'est une honte.
Oui, c'est une honte, ah, vraiment, parce que c'est le seul pouvoir qui soit sans contre-pouvoir. J'avoue que là, dans cet article, je n'ai pas pu aller plus loin, parce que d'abord, je ne peux pas...
Ah, vous êtes allé assez loin, quand même. Vous dites « on casse les hommes comme on casse les œufs ».
Ah oui, mais...
Il faut le faire, quand même.
Oui, mais ça, si vous voulez, j'ai des expériences très, très personnelles à ce sujet. J'ai rencontré un certain nombre de journalistes que je connais et que j'ai effectivement tensé en leur disant « mais tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu as fait ». Et qui me répondent, mais avec un ricanement, une désinvolture absolument incroyable, en disant oh, « c'est rien ». Alors que s'il leur arrivait à eux le millième de ça, ils seraient sous leur couette à pleurer.
Alors vous êtes une libérale néo-conservatrice, mais il y a un intellectuel de gauche tout à fait respectable, qui est Jean-Claude Guibaud, et qui parle, lui, d'assassinat virtuel. C'est la même chose, au fond.
Oui, c'est la même, exactement. Mais surtout que, comme aujourd'hui, il n'y a plus d'assassinat réel. Bon, heureusement, d'ailleurs.
Mais lui, il voit une sorte de rite lié à un besoin fusionnel de collectif à travers lequel, au fond, les gens se sentent innocents. Parce que comme tout le monde s'acharne sur une personne, ben on se sent innocent de le faire puisqu'on fait comme les autres.
C'est ça, c'est le bouc émissaire.
Oui, c'est ça, c'est Gérard.
Bien sûr.
Mais vous pensez que c'est vraiment un mode de fonctionnement actuel de notre société ? Parce que si c'est vrai, c'est extrêmement dangereux pour la suite, ça.
Je n'ai pas lu cet article de Jean-Claude Guibaud-là. Il est possible que dans certains cas, ça joue ce genre de rôle. Ça fonctionne comme ça. Mais dans l'ensemble, ce qui est terrifiant, c'est que le journaliste n'est jamais puni, enfin, il ne lui arrive rien, il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Et il m'est arrivé quand même souvent, disons par l'histoire que j'ai eue, de lire des choses que je connaissais très bien parce qu'elles me concernaient et qui étaient entièrement fausses. Du début jusqu'à la fin.
Et alors, ce n'est pas Internet qui arrange les choses, puisque maintenant, on recrute sur Internet des gens qui n'ont ni formation, ni...
Ah oui. Oh, mais vous savez, est-ce que c'est une histoire de formation ou une histoire d'honnêteté morale, tout simplement ?
Mais la formation avec une certaine éthique, quand même, dans la formation, ça
d'accord.
peut compter.
Oui, d'accord. Compter. Oui. Mais enfin, dans ce cas-là, vous parlez de formation éducative plus
oui.
que de formation
oui,
intellectuelle.
Oui, bien sûr, bien
parce
sûr.
Qu'on s'en fiche qu'un journaliste ait lu des livres ou pas. Parce que, disons, ce que j'étais en train de dénoncer, ce n'était pas leur ignorance intellectuelle.
C'était leur comportement. Et
ce que je trouve terrible, c'est qu'on soit finalement livré à leur morale. S'ils ne sont pas très honnêtes, nous sommes perdus. Parce que pour eux, il n'y a pas de stop.
Par rapport à cela, vous vous opposez, vous l'avez fait à travers un texte, un très beau texte. On ne s'attendait pas à ce que vous, vous utilisiez cet exemple, hein, je vous le dis à titre personnel. C'est l'exemple de Nelson Mandela. Et vous avez là-dessus écrit un papier très très beau pour montrer que c'est autre chose, quoi. Là, on a une autre dimension qui est un exemple pour notre temps.
Oui, alors il y a le fait que j'admire beaucoup Nelson Mandela depuis le début.
C'est-à-dire que vous acceptez même sa période communiste
Ah oui, mais je sais bien que tout... Écoutez, étant donné la situation...
J'ai dit ça, compte tenu de votre...
Étant donné la situation, de toute façon, c'était plus ou moins fatal que l'URSS saute sur les dissidents de ce pays-là, comme ce sont ceux qui ont fait en partie la guerre d'Espagne. Mais entre nous, hein, les chefs de la guerre d'Espagne parlaient tous russes. Bon. Donc, d'ailleurs, on sait très bien que des gens comme les Sud-Américains auraient levé l'apartheid bien plus tôt si les Russes ne risquaient pas de tomber sur le pays. Bon. Donc ils ont été obligés d'attendre la chute du mur. Bon, ça empêche que Mandela soit passé par le communisme, c'est une chose, mais ça n'empêche pas ce qu'il a fait. Et c'est quand même exceptionnel. J'attendais quand même le moment de pouvoir parler d'une chose comme ça, et je trouve que c'est encore plus expressif d'en parler à propos de Mandela que d'en parler à propos des Polonais ou autres, qui sont moins aimés dans ce pays.
Bon, donc, mais qui ont fait à peu près la même chose, vous l'expliquez.
Qui ont fait à peu près la même chose, mais qui sont moins aimés par les Français. Donc la leçon, si j'ose dire, entre guillemets, porterait moins. Donc, je voulais parler de ça, mais j'attendais d'avoir un bon exemple. Là, je l'avais avec la sortie du film Invictus, qui est un très beau film. Et pour dire quand même aux lecteurs français, ce qui s'est passé à la Libération, ça ne doit pas toujours se passer. Ce n'était pas tout à fait normal.
Enfin, le culte
on peut,
de la revanche. Enfin,
voilà, on peut agir autrement. On n'a pas été forcément les meilleurs en faisant ça. Et ce qui s'est passé avec tous les procès, dès qu'on trouve l'ombre d'un ancien nazi qui est aujourd'hui à 94 ans, on va faire un procès qui va durer 2 ans... avec une démorale dégoulinante partout. Et je trouve ça grotesque. Qu'on arrête un peu et qu'on sache ce que signifie quelque chose comme le pardon quand il s'est vraiment passé des choses horribles.
Oui, parce que Mandela, lui, il a appliqué le principe du pardon intégralement.
Mais oui.
Et avec cette extraordinaire commission 95, c'était Desmond Tutu, qui dirigeait ça.
Oui, c'est ça.
Qui a imposé, en fond, le pardon.
Et qui a imposé le pardon, alors que ça devait être difficile, parce que je suis sûr qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient la revanche. Alors, je ne dis pas qu'il faut toujours pardonner. D'abord, j'aurais beaucoup de mal à le dire, parce que moi-même, je ne me suis pas trouvée dans ce genre de situation épouvantable. Donc, peut-être que moi-même, je n'y arriverais pas à pardonner. Mais il me semble que c'est quand même intéressant de voir que certains ont pu le faire.
D'ailleurs, vous faites une distinction subtile. Dans des situations comme celle-là, vous dites qu'il faut choisir entre le pardon et la justice. Donc,
oui.
Vous n'êtes pas en train de dire la justice, c'est de pardonner. Vous
dites,
non, c'est autre chose, la justice.
Non, c'est autre chose.
La
parce
justice,
que
ce serait le coup près qui pourrait passer. Quoi.
Ben, oui, on aurait pu les pendre, ou les mettre en tôle pour toujours. Je pense que chaque peuple choisit. Ce que je n'aime pas, c'est la justice internationale qui veut imposer à tous les peuples de faire pareil, d'envoyer au procès les coupables. Je pense qu'en des situations aussi graves, chaque peuple doit décider.
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, Chantal Delsol, quelle est la plus grosse hypocrisie de notre temps ?
La réponse est assez liée à la précédente question. Tant je pense que le problème principal, c'est la désocialisation. Et l'hypocrisie principale, c'est de laisser croire aux gens qu'on peut avoir toute liberté de faire absolument ce qu'on veut dans la vie, sans tenir compte ni des autres. Et qu'à condition qu'on respecte les lois de l'État, finalement, tout va bien. C'est pas vrai. Je pense que ça, c'est une très très grande hypocrisie. Laisser croire que nous avons tous les droits, cette espèce de droit de l'homisme dégoulinant dans la bouche de nos hommes politiques. Non, nous n'avons pas toute la liberté possible. Ou plutôt, ça nous retombe dessus. Enfin, c'est pas être un homme que de faire tout ce qu'on veut avec sa liberté.
Alors, de ce point de vue, il y a quelqu'un que vous aimez bien et qui, ces temps-ci, a fait l'objet d'énormes critiques. Vous l'appelez le pèlerin blanc. Vous dites que c'est un moine pèlerin et non pas un moine soldat. C'est Benoît XVI.
Oui. Ben, c'était pour le comparer avec Jean-Paul II.
Oui, c'était à l'occasion de son voyage à Paris, où vous aviez tenu ses propos, donc, en 2008. Mais vous pensez qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans toutes les attaques là, dont il fait l'objet aujourd'hui à l'occasion du scandale des prêtres pédophiles ? Par la philosophe catholique, là. Hein.
Écoutez, d'hypocrisie, je ne sais pas. Disons qu'il y a une volonté de nuire. C'est un prétexte, c'est un bon prétexte, une bonne occasion, je dirais. une bonne occasion pour nuire, parce que, bon, évidemment, toutes ces choses ne sont pas fausses. Mais simplement, je pense que le problème de la pédophilie, ce n'est pas le problème de l'Église, c'est le problème de toutes les institutions, toutes les communautés. Disons que jusqu'à il y a 15 ans, on peut dire 15 ans, on pourrait dire 20 ans, on pourrait dire 10 ans, jusqu'à une période récente en tout cas, on protégeait les institutions et les communautés contre l'individu. On protégeait... Mais vous savez, l'affaire Dreyfus, c'était déjà ça.
Alors justement, est-ce que l'Église, là, ne paye pas sa culture historique du silence, quoi, qui fait qu'on préfère préserver l'institution que respecter la vérité? Vous citez Dreyfus, mais c'est comme ça depuis Antigone, à fond.
C'est comme ça, oui, c'est comme ça
depuis... Est-ce que l'Église n'a pas quand même, dans son histoire, trop souvent... voulu préserver l'institution?
Bah écoutez, bien
un
sûr.
Un cas comme ça, c'est ce qui s'est passé quand même.
Mais exactement. Moi, j'ai des souvenirs très nets quand j'étais jeune d'avoir entendu des choses que je trouvais indignes parce que j'ai entendu des gens qui camouflaient, qui cachaient des choses comme ça. Bon, voilà. Mais cela dit, la culture du silence, elle est aussi dans la famille. Vous savez, il y a un tas de familles bon chic, bon genre dans lesquelles il s'est passé des choses insensées. Insensées. Et on n'imagine pas, quand vous voyez ces familles, elles sont superbes, hein, c'est la famille Le Quesnoir. Hein. Alors, bon.
Ah, c'est dans l'évangile, c'est le pharisianisme. C'est
bon,
le...
voilà, et ça, c'est tout à fait récent. Alors, qu'on lève le secret et qu'on dise, bon, il faut protéger les individus contre les communautés ou les institutions, s'il faut, très bien. Il faut faire attention quand même, hein, parce que détruire les communautés ou les institutions, c'est pas bon non plus pour les individus à long terme, hein, ou même à moyen terme.
Il n'y a pas un principe irréfragable de souci de la vérité d'abord?
Ah, mais moi, je suis entièrement d'accord, mais moi, je suis pour...
Dreyfus, vous n'auriez quand même pas...
Ah non, non, mais moi, je suis pour la défense de la personne, donc je pense que la finalité est essentielle et que c'est pas l'institution qui est la finalité. La finalité est un moyen... en vue de la personne. Donc, il ne faut pas sacrifier les personnes sur l'autel de l'institution. Ça, c'est évident. Mais bon, il faut quand même faire attention à ne pas détruire les institutions non plus. Alors, prendre prétexte de ce silence qui a été, à mon avis, trop pesant, et je suis entièrement d'accord, hein, pour essayer d'envoyer des coups sournois aux institutions, que ce soit l'Église, bien sûr, qui sera la première à prendre les coups, ou que ce soit la famille, je pense que c'est très dangereux aussi.
Est-ce qu'on ne peut pas dire, quand même, pardonnez-moi de dire ça, mais un peu de bonne guerre, quoi, si on
Mais naturellement que c'est de bonne guerre. Bien sûr, vous avez un adversaire et il lui arrive ça. Bah, évidemment. Ce qu'il faut voir quand même, je ne dis pas ça pour défendre l'Église, car là, elle est indéfendable, c'est clair. Mais ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'à, disons, il y a 15 ans, eh bien, c'était des comportements qui, à la limite, n'étaient pas considérés comme criminels. Alors, probablement que, et de toute façon, ils l'étaient. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être relativiste. Ces comportements sont criminels à un moment de l'histoire et pas criminels après, non. On ne les considérait pas comme tels. Et puis, il y avait tout un discours qui disait, par exemple, les victimes mentent, ce sont des fausses victimes. Ou bien alors qui disait, oui, ça s'est passé, mais ce n'est pas si grave. Vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, c'est très compliqué quand même de tomber à bras raccourcis sur des gens parce qu'ils ont eu un comportement qui, à l'époque, n'était pas considéré comme vraiment répréhensible.
Mais vous qui avez cette tendresse, on peut le dire, à l'égard de Benoît XVI, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous attendez comme suite concrète d'une déclaration comme celle qu'il a faite le 15 avril dernier. Mais maintenant que nous sommes attaqués par le monde, qui nous a parlé de nos péchés, nous nous rendons compte qu'il est nécessaire de nous repentir, en d'autres termes, de reconnaître ce qui ne va pas dans nos vies. Qu'est-ce que vous attendez de la part de Benoît XVI après une déclaration pareille, qui est quand même extraordinaire? Qu'est-ce qu'il peut faire, en fond?
Qu'est-ce qu'il peut faire?
Concrètement,
il est en train de nettoyer les écuries d'Augias.
Vous pensez qu'il va vraiment le faire, ça?
Ah bah écoutez, c'est ce que j'attends de lui, en tout cas. C'est-à-dire que, écoutez, je me rappelle très bien de certaines choses. Lorsque ce genre de choses arrivait dans les années, mettons, 70 ou 80... Lorsque ça se passait dans une famille, il fallait absolument se taire et puis les enfants à qui ça arrivait étaient en général détruits, plus ou moins, plutôt plus que moins. Lorsque ça se passait dans un internat ou dans une paroisse ou autre, quand ça commençait à faire un peu du bruit autour ou que la rumeur était trop forte, on déplaçait la personne en question et on l'envoyait ailleurs. Le temps qu'il fasse quelques dégâts, ça devait durer 2-3 ans et on espérait qu'il allait mourir pas trop tard. Voilà. Si nettoyer les écuries d'Augias, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on écoute pour une fois les victimes, on les sépare à temps de la personne en question pour pas qu'il arrive pire, et puis on punit le coupable. Mais on le punit vraiment, on le déplace pas. J'espère qu'il va faire ça. Ah, s'il ne fait pas ça... Vous savez, moi je suis une personne qui serait capable de quitter l'Église si certaines choses...
Vous?
Ah oui.
Vous?
Ah oui, si certaines choses
avec,
qui
avec
me paraissent essentielles n'étaient pas faites.
La formation que vous avez reçue, on peut le dire, hein, vous avez été formé et vous avez beaucoup de respect pour votre formation,
oui, mais je
une admiration sans limite pour votre père.
Oui,
qui était un biologiste talent, mais très tradit.
Je ne suis pas d'accord avec lui sur plein de choses.
Oui, mais enfin, quand même, ce serait une rupture fondamentale pour vous.
Ça n'a rien à voir avec la tendresse. Oui, mais vous savez, je ne supporterais pas n'importe quoi.
Vous seriez capable de le faire?
Ah, bah, bien sûr. C'est pour ça que, oui, j'attends de pied ferme que les gens soient punis, enfin, soient écartés, qu'on les sorte de l'Église, j'espère, qu'on les envoie à la retraite. À mon avis, ce sont des vieilles personnes maintenant, parce que...
Espérons.
Moi, j'en sais rien.
Espérons.
Je ne sais pas exactement, vous me direz, c'est très compliqué ces choses, parce que finalement, bien sûr. Ne tient que sur le témoignage des enfants. Et bien souvent, aujourd'hui, ça peut être des vengeances. C'est tellement facile pour quelqu'un qui a maintenant 30 ans de dire « je vais raconter qui s'est passé ça ».
On l'a vu il y a quelques années, dans un cadre de l'Église de France.
Histoire d'Outreau aussi, vous voyez. Alors c'est trop simple, hein, c'est trop simple d'aller raconter un truc, donc c'est vrai qu'il faut faire attention.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir ? Disons pour le monde, de notre société, pour
les problèmes,
vie en commun, nos relations.
Les problèmes de l'Occident.
L'Occident et du monde aussi, oui. Que vous êtes très attaché, vous, à notre prise en
compte. Très attaché à notre culture.
Voilà. Mais également à l'ouverture aux autres cultures. Si j'ai bien compris,
bien
vous
sûr.
Considérez que la mondialisation, à la différence de beaucoup de conservateurs, vous considérez que la mondialisation est une chance formidable,
oui, bien
y compris
sûr.
Sur le plan culturel.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je suis quand même très inquiète à propos de la destinée de la culture occidentale.
Vraiment, vous êtes
Ah oui.
Parce que quand on regarde quand même les fréquentations des musées, des concerts, des théâtres, on a l'impression que le cadavre de la culture occidentale bouge encore, non ? Ou c'est artificiel tout ça ?
Ah oui, bien sûr, ça bouge encore. Nous sommes quand même une très grande culture et on n'est pas prêt de mourir. Néanmoins, ce que nous étions en train de dire tout à l'heure sur l'effacement d'idées de progrès, c'est une des expressions, ou le fait que la démocratie représentative subit les coups d'une espèce de démocratie participative qui la remplacerait, c'est très grave, ou que le débat serait remplacé par le consensus, de plus en plus. Hein. Ce sont des choses qui me paraissent très graves, parce que c'est la culture elle-même qui s'effondre, là. En même temps, elle a mauvaise conscience, cette culture. Elle a peur de son ombre, elle a peur de se dire, elle a peur de son identité. À la limite, elle voudrait ne pas exister. Ces intellectuels ont envie de suicider la culture qui les porte. Enfin, s'il y a quand même quelque chose comme ça qui est très impressionnant.
Y compris les scientifiques. Vous-même, vous avez dénoncé tout un courant scientifique, d'ailleurs très en vogue, et même bien représenté à l'Académie française, qui mettait en cause, au fond, la suprématie de l'homme dans l'univers telle que notre culture l'avait établie. Je pense à la fois, lui n'est pas à l'Académie française, mais Foucault, Lévi-Strauss, et la négation de la transcendance de l'homme.
La négation de la royauté de l'homme. Ouais.
C'est-à-dire, au fond, nous mettre un peu au diapason des philosophies orientales.
Exactement, exactement. Ça, mais c'est ça qui, à tout niveau, c'est ça qui nous pend au nez. Et effectivement, à propos de cette question dont vous parlez actuellement, la question de la royauté de l'homme, j'étais encore en train de lire hier un texte sur la Terre-Mère. Il va y avoir maintenant une fête de la Terre-Mère. C'est organisé, suscité par l'ONU dans tous les pays du monde, une fête annuelle, chaque année, de la Terre-Mère. C'est une fête panthéiste, au fond. Ça a été demandé par les Boliviens. Voilà un cas typique d'influence de l'Orient. Alors ça, pour vous dire que c'est la culture occidentale qui est en danger, oui, ou quand des gens comme Peter Singer parlent des impersonnes humaines. Et quand il dit qu'un bébé handicapé de 6 mois a moins de dignité qu'un bébé éléphant qui va bien de 6 mois.
Ah, il a écrit ça, lui.
Ah, il écrit des choses comme ça. Et ça, c'est un courant qui se porte bien. Alors, qu'est-ce qui... Parce que vous m'avez demandé quelque chose de positif.
Oui, oui.
Qu'est-ce que je trouve positif, là, au milieu ? Ça va peut-être vous étonner, mais le fait que l'Amérique existe. Parce que là, vous avez quand même une culture qui est occidentale, qui est, comment dirais-je, assez, par rapport à nous, assez sauvage, assez primitive, dans le bon sens du terme, simple, mais qui a conservé des critères, des références solides. Alors parfois, évidemment, trop caricaturaux, enfantins, un peu puérils.
Je ne pense pas que les tea parties soient votre tasse de thé.
Comment ?
Je ne pense pas que les tea parties soient votre tasse de thé.
Non, mais je pense que là, c'est un point d'accroche qui peut, effectivement, conserver un certain nombre de critères qui sont les nôtres. Même si ce n'est évidemment pas d'une manière aussi sophistiquée que nous le ferions. Parce que,
mais quelle Amérique, Sarah
Palin ? Je parle de l'Amérique du Nord.
Sarah Palin ou Barack Obama
mais l'un ou l'autre, parce que vous savez, ça... c'est pas tellement loin.
Ah, vous...
Non.
Franchement.
Moi, je pense que c'est pas tellement
alors
loin.
Alors que vu d'ici...
Non, mais vu d'ici, parce que la France est hystérique. Hystérique pro-Obama et hystérique anti-Bush. Mais tout ça n'est pas tellement différent. Enfin, bien sûr que c'est différent. Bon, il va y avoir des réformes sur la santé que Bush n'aurait pas faites de la même façon, pas faites du tout, je ne sais pas. Mais quand même, vous avez l'Amérique où 60% des gens sont restés attachés à la religion et ils ne deviendront pas bouddhistes. Pas autant que nous, hein, ça c'est clair.
Curieusement, c'est d'ailleurs très intéressant, vous avez écrit, je ne sais plus dans quel livre, que finalement, il y avait une frontière beaucoup plus grande entre la culture asiatique et la culture chrétienne qu'entre la chrétienté et l'islam, et qu'on se trompait de choc de civilisation.
Oui, je pense que la vraie différence, elle est là, sauf que, bon, naturellement, même si l'islam est aussi un monothéisme, ce n'est pas du tout le même que le nôtre. Alors, je ne dis pas que nous n'avons pas le même Dieu, puisque finalement, quand on se trouve plusieurs à avoir un Dieu unique, c'est probablement le même. Mais bon, la grande différence...
C'est
quand
son
même,
ironie.
La grande différence, elle est entre le monothéisme et puis les sagesses orientales qui sont quand même, où il n'y a pas de transcendance quand même.
Donc,
elles sont très
grandes. Tous les courants à la Servan Schreiber et tout ça, vous pensez que tout cela, là, on est en train de...
Ah oui, de partir.
Il y a une dérive des plaques continentales.
Absolument, absolument. Je pense que c'est ça qui va nous arriver. C'est ça qui est en train de nous arriver.
Vous pensez qu'on y est, là ?
Ah ben, on y est complètement. On y est complètement. Enfin, je suis en train de travailler là-dessus, donc ça m'intéresse spécialement. Je pense que vraiment... À plein d'égards, on y est complètement. Ah oui, vraiment.
Mais sans retour, du moins à l'échelle des générations qui viennent. Hein.
Écoutez, je ne sais pas, mais quand je vois très grand nombre de facteurs... Bon, par exemple, je ne sais pas si c'est le moment de...
Si, vous pouvez, vous avez toute liberté.
Un exemple, la passion pour le présent. Le présent, l'éternité, le sentiment océanique. Vous voyez ce que je veux dire ? L'amour pour ce sentiment océanique que vous trouvez depuis Romain Rolland, tout le siècle... La littérature qui actuellement se développe, c'est complètement asiatique. L'éternité est dans l'instant. Et jusqu'à présent, nous étions des gens du passé et du futur, surtout du futur, des gens de l'espérance de Peggy, enfin. Mais nous sommes en train de devenir des gens de l'instant. Et ceci est tout à fait oriental. Je n'ai aucun mépris, très loin de là, pour les orientaux, pour lesquels, au contraire, j'ai énormément d'admiration. Néanmoins, c'est pas nous, quoi.
Ouais. Et puis l'individu se dissout dans l'instant.
Alors l'individu se dissout, le moi se dissout.
Donc la démocratie, tout
ça. Tout ça part. C'est évident.
Mais alors, en quoi la mondialisation peut être un atout pour nous ? Parce que, vous le dites aussi, nous n'avons pas à imposer notre modèle aux autres.
Ah, parce que alors pour moi, comment vous dire ? Ma passion, sainte liberté. Et pourtant, je suis critique par rapport à la liberté sans responsabilité. Mais pour moi, la liberté, c'est savoir de quoi on est responsable. Voilà. Mais sainte liberté. Les peuples sont responsables. Le jour où Pol Pot est mort, dans Phnom Penh, les gens ne riaient pas. Ils ne trouvaient pas ça... Et nous, on aurait fait la fête le jour de la mort de Pol Pot. Et les gens réagissent comme ils pensent devoir réagir. Les gens font leur vie. Les Chinois ne veulent pas des droits de l'homme. Ils envoient à la mort des criminels de la pensée. Bon, je ne dis pas que c'est bien. Je ne le ferai pas, naturellement. Je n'aimerais pas qu'on le fasse ici, mais... Et qu'on les laisse penser à leur manière. Ce sont des hommes comme nous, avec leur indépendance d'esprit. Moi, j'y tiens beaucoup à ça.
Donc, on n'a pas à se mêler de ça.
Non, mais on peut discuter avec eux, naturellement. Et on peut discuter avec les musulmans qui éteignent leurs femmes. On peut dire les choses gentiment comme ça. On peut discuter avec eux jusqu'à la fin des siècles.
Oui, mais s'ils le font chez nous, prenons cet
exemple-là. C'est différent. Quand ils le font chez nous, c'est chez nous. Nous avons nos lois. Quand même, la liberté que nous réclamons pour eux, nous pouvons quand même la réclamer pour nous.
Parce qu'il y a, d'une certaine façon, on a l'impression parfois qu'ils utilisent notre droit pour imposer une culture qui contredit notre propre culture.
Bien sûr, mais là, ils ont tort. Et là, c'est à nous quand même de nous défendre sur notre territoire.
Est-ce que vous avez, pour être très cru, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre, est-ce que vous avez l'impression que le Conseil d'État est tombé, mais alors vraiment, franchement, dans le piège, là-dedans, sur cette histoire de la burqa, là, ou pas ? Le Conseil d'État a dit qu'on ne pouvait pas interdire d'une façon généralisée le port de la burqa, qu'il fallait entre ceci et cela.
Oui, mais alors je pense que
c'est pas tombé dans le piège complètement, parce que comment peut-on faire la distinction, je veux dire, au quotidien ? Vous imaginez qu'on fasse la distinction au quotidien ? Burqa ici, pas burqa là, enfin c'est... Bon.
Ah oui, bien sûr, mais si j'ai bien compris, aujourd'hui, je ne sais pas si
le président de la République, lui, a décidé que, en tous les cas, il y aura un projet de loi... interdisant complètement la burqa. Mais vous, pour vous, est-ce qu'à travers ça, on est face à une question symbolique essentielle ou pas ?
Ben, oui, je reconnais que symboliquement, c'est quand même essentiel. Parce que finalement, cacher quelqu'un comme ça au regard des autres, c'est tout à fait contraire à ce que nous pensons de la personne.
Ouais, donc, encore une fois, la République est en cause, quoi.
Ben, oui, je pense que notre culture de la personne est en cause, république ou pas, d'ailleurs. Parce que la République n'est pas la seule à apporter la culture de la personne. Fort heureusement, vous savez, je n'ai pas une
tradition.
Passion absolue pour la République. Bon, mais cela
votre
dit...
Votre tradition monarchiste...
Oui, enfin bon, je ne suis pas spécialement monarchiste non plus, mais enfin bon, disons,
je
serais fédéraliste,
oui,
disons.
Européenne et fédéraliste,
voilà.
Oui.
Mais effectivement, je reconnais que c'est quand même très difficile d'interdire... Comment interdire à quelqu'un de se promener dans la rue, habillé comme il veut ? Et après tout, on interdit bien à quelqu'un de se promener tout nu. Bon, pourquoi ? Parce qu'il affecte, parce que c'est un problème de pudeur, un problème de scandale. Eh bien, ces femmes nous scandalisent aussi, après tout. Donc, oui, je pense que tous ces gens doivent être absolument accueillis chez nous, mais à condition qu'ils respectent nos lois. Pas seulement là-dessus, d'ailleurs, sur tout le reste aussi.
sixième question récurrente de notre série essentielle. Quel a été, Chantal Delsol, le plus grand échec de votre vie? Vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre. C'est une question très personnelle. Vous répondez ou vous ne répondez
mais
pas?
Non, je ne réponds pas.
Je ne réponds pas. Bon, vous aviez le droit, c'est le joker de la série. Et vous êtes la première personne, depuis que cette émission, cette série existe, à dire non. Mais comme le principe est acquis, donc nous le respectons. Septième et dernière question, quelle est votre motivation essentielle dans la vie aujourd'hui?
Ce qui me passionne, c'est la participation à la vie intellectuelle, et puis plus profondément, de défendre des convictions. C'est-à-dire de pouvoir dire ce que je pense et de pouvoir le défendre. C'est un petit peu dommage de voir monter derrière nous des générations qui, non seulement n'ont plus d'idéologie, ça, la fin des idéologies, tant mieux, mais qui ne savent plus très bien quel genre de conviction ils ont. Alors, je pense que c'est quand même important de savoir où nous allons. Les convictions, c'est ça, c'est savoir où nous allons, finalement, quel genre de destin nous avons.
Est-ce que ce n'est pas encore plus la peur du risque qui les caractérise?
La peur de savoir, la peur de décréter que ceci est vrai. Je crois que ça les terrifie un peu. Et puis, peut-être ont-ils d'autres problèmes que nous n'avions pas. Après tout, nous, on était quand même des générations gâtées, des générations nanties.
Pour leur donner un exemple plus agréable, à quoi la joie correspond dans votre vie?
La joie, juste de vivre.
Et puisque vous avez évoqué tout à l'heure donc, votre admiration pour la démarche de Mandela à propos du pardon, je voudrais terminer cette émission par un extrait d'un poème que vous avez cité, un poème extraordinaire d'Ernest Henley, poème que Mandela, paraît-il, donc durant ses 27 années de prison...
C'est ce qu'il raconte dans le film et j'ai vérifié que c'est effectivement bien
alors
vrai.
Alors je vous lis très mal l'extrait de ce poème. « Aussi étroit soit le chemin, bien qu'on m'accuse et qu'on me blâme, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. »
C'est génial.
Il faut le faire.
Ah, ouais.
Et surtout, garder ça tous les jours.
Ah, ouais.
C'est quand même étonnant. Voilà, ainsi s'achève donc cet essentiel avec la philosophe Chantal Delsol, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Chantal Delsol, merci.
Merci à vous.
Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.